VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa présente ce vendredi les grandes lignes de son plan d'action pour le pays. 24 heures après son entrée en fonction, le chef de l'État va prononcer à 17h temps universel devant le Parlement du Cap le discours sur l'état de la nation, reporté la semaine dernière pour cause de crise de succession. Son prédécesseur, Jacob Zuma, à la tête du pays depuis près de 9 ans, a été contraint mercredi soir à donner sa démission, lâché par son propre parti, l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir. Un départ accueilli avec soulagement par les Sud-Africains, écœurés par la corruption qui gangrène depuis des années le sommet de l'État et à la recherche d'un leader capable de relancer l'économie nationale en panne. Cyril Ramaphosa a promis de faire de ces deux problèmes sa priorité numéro un et d'annoncer dès ce vendredi quelques-unes des mesures qu'il compte prendre. Ses adversaires politiques, comme le chef de l'Alliance démocratique d'opposition Moumoussi Maïmane, l'attendent au tournant, déterminés à ne lui accorder ni carte blanche ni état de grâce. République démocratique du Congo, l'UNICEF affirme avoir documenté 76 cas de personnes tuées à l'arme blanche depuis décembre en Ituri, région de l'est du pays proche de l'Ouganda, chiffre mis en cause par les autorités congolaises. Par ailleurs, l'UNICEF se dit très préoccupé par la situation de plus de 46 000 enfants qui sont en fuite à cause des violences entre les communautés d'éleveurs Emma et d'agriculteurs Lindou. Le gouvernement congolais a promis de renforcer le déploiement de la police avec comme mission de traquer tous les fauteurs de troubles. RDC, toujours retour sur le sommet tripartite qui s'est tenu mercredi à Kinshasa entre les présidents Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et João Lourenço d'Angola. Les trois leaders ont abordé notamment la situation de la région du Pool au Congo-Brazzaville et les futures élections en RDC. Il reçoit l'adjoint Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, qui en a profité pour apporter un droit de réponse sur la voie de l'Amérique.
Les trois chefs d'État se sont félicités de ce que les perspectives étaient bonnes en ce qui concerne la possibilité d'organiser les élections à date convenue. Ils ont félicité leur homologue Joseph Kabila pour avoir respecté jusque-là tout ce qui avait été convenu par les parties prenantes à l'accord du 31 décembre 2016. Et ils ont invité toutes les parties congolaises à se conformer à ce calendrier qui a été élaboré par la Commission électorale nationale indépendante, tout en prenant une option très claire contre toute tentative de vouloir s'emparer du pouvoir en République démocratique du Congo par des voies autres que celles prévues par la Constitution.
La voix de l'Amérique vous doit un droit de réponse à l'issue d'une interview que vous nous aviez accordée. Quel rectificatif pouvez-vous amener sur choisir un dauphin ou ne pas choisir un dauphin?
On m'a fait dire que le président Joseph Kabila allait choisir un dauphin au mois de juin ou de juillet. Je tiens à démentir de la manière la plus catégorique ce que j'ai dit lors de mon entretien avec votre confrère Nicolas Pinault. C'était que ceux qui s'intéressaient à cette question devaient simplement se référer au calendrier électoral qui avait été publié par la Commission électorale nationale indépendante. Au regard de ce calendrier, le dépôt des candidatures était programmé entre le mois de juin, juillet et août, et qu'il fallait un peu de patience pour connaître à ce moment-là qui seraient les candidats des différentes formations politiques, y compris la formation politique du président Joseph Kabila, et que c'est parmi ces candidats que le peuple congolais aurait à choisir son futur dirigeant. Alors je n'ai pas compris que l'on m'ait fait dire que j'ai parlé de dauphin. Un dauphin, on ne se soumet pas à une élection. Un dauphin, lorsqu'on le choisit, il remplace automatiquement le roi qui était là. Mais à ma connaissance, le Congo n'est pas un royaume, donc c'était une très mauvaise interprétation.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa. La crise politique au Burundi maintenant, la plateforme de l'opposition en exil, le Sénared, dénonce l'enrôlement forcé d'électeurs en vue du référendum constitutionnel prévu en mai. Il pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Ce qui se passe est inadmissible, affirme Tatien Sibomana, un des rares leaders d'opposition n'ayant pas choisi l'exil malgré la crise qui sévit depuis avril 2015. Le Sénared évoque le peu d'engouement de la population pour ce référendum. Au moins 50 militants ont été arrêtés depuis mi-décembre, accusés de promouvoir le non.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Tanzanie, l'ambassade des États-Unis dénonce la violence dans le pays après la mort d'un opposant. Washington préconise une enquête transparente dans cette affaire. Yacouba Ouedraogo.
Les États-Unis se disent attristés par les informations faisant état de l'enlèvement et de la violence qui ont conduit à la mort de l'opposant Daniel John. D'après le communiqué de l'ambassade américaine publié sur son site internet, l'escalade des confrontations et de la violence à caractère politique est inquiétante, appelant toutes les parties à sauvegarder la paix et la sécurité du processus démocratique. Daniel John était un responsable du Chadema, principal parti d'opposition. D'après son parti, il a été enlevé lundi en pleine rue avant d'être retrouvé mort mardi dans un hôpital de Dar es Salaam, le corps marqué de coups de machette. Freeman Mbowe, chef de l'opposition au Parlement, assure que cet assassinat est lié à la campagne électorale et a été perpétré par la Ligue de jeunesse du parti au pouvoir. Des élections partielles sont prévues ce week-end dans plusieurs circonscriptions pour remplacer des députés et élus locaux démissionnaires.
Quant à l'ambassade américaine au Soudan, elle a exprimé hier ses inquiétudes après l'arrestation de centaines d'opposants par les autorités soudanaises. Le point avec Anastasie Toudièche.
Nombre d'entre eux sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes et n'ont accès ni à leur avocat ni à leur famille, affirme l'ambassade américaine à Khartoum. Parmi les personnes arrêtées, le numéro 2 du principal parti d'opposition, le secrétaire général du Parti communiste soudanais et des militants. Le communiqué de l'ambassade intervient dans un contexte de rapprochement entre Washington et Khartoum après la levée d'un embargo américain vieux de 20 ans contre le Soudan. En 2016, le pays avait déjà été le théâtre d'un mouvement de protestation réprimé qui avait fait des dizaines de morts selon des groupes de défense des droits de l'homme. Les ambassades européennes à Khartoum ont également appelé à la libération des manifestants. Ces derniers dénonçaient la cherté de la vie après l'augmentation des prix du carburant.
Au Togo, poursuit des travaux préparatoires en vue du dialogue politique qui démarre lundi prochain à la capitale. Le gouvernement du président Faure Gnassingbé va y négocier avec une coalition de 14 partis d'opposition. En attendant, la première journée des travaux préparatoires hier a été fructueuse. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Plus de 4 heures d'horloge, c'est le temps qu'ont duré les discussions de cette première journée du comité préparatoire du dialogue. Daniel Osei, membre de la facilitation ghanéenne.
Les deux partis, c'est-à-dire le parti Unir et les 14 partis de l'opposition, se sont réunis pour définir le règlement intérieur qui va gérer le dialogue prévu pour le 19. Pour le moment, nous préférons nous limiter au fait que le comité préparatoire s'est réuni et a fait beaucoup de progrès. Quand les travaux seront terminés, vous saurez tous les détails qui ont été discutés.
Ce vendredi, les travaux vont se poursuivre probablement avec les mesures d'apaisement. Avant le début de la rencontre, le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a martelé que les mesures d'apaisement constituent le chemin qui conduira au dialogue.
Ça n'a jamais dépendu de nous. On a souhaité depuis longtemps que les mesures d'apaisement soient réglées pour qu'on entre dans le vif du sujet. Peut-être que bientôt on va rentrer dans le vif du sujet avec la réalisation des mesures d'apaisement.
Le comité préparatoire poursuivra donc sa tâche ce vendredi après-midi. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Et vous terminez en Côte d'Ivoire. L'opposition réclame une commission électorale consensuelle. Les opposants se fondent sur l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui exige la modification de la composition de la commission actuelle. Eric Manirakiza.
D'après l'arrêt de la Cour, le gouvernement ivoirien a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial. Les deux factions rivales du Front populaire ivoirien FPI ont donc saisi la balle au bond pour demander la mise en place d'une nouvelle commission électorale consensuelle. La commission électorale indépendante ou CEI est composée par 8 membres du pouvoir et 4 de l'opposition. Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a rejeté les critiques contre la CEI. Pour lui, la commission et le Front fruit d'un consensus entre tous les acteurs politiques avant les dernières présidentielles de 2015.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.